Vous êtes sur RTL.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue sur RTL pour une nouvelle semaine de partage et de réflexion. Que de beaux sujets qui nous attendent. Le souffle, la confiance en soi, la puissance d'une rencontre avec le philosophe Charles Pépin, ça ce sera pour vendredi. Et puis demain, un grand entretien sur une histoire exceptionnelle. Comment le petit César a vu son espérance de vie considérablement rallongée grâce à la naissance de son frère Marceau. Ce sera demain entre 14h30 et 15h30 en direct sur l'antenne d'RTL. Mais pour l'heure, chut, on va parler de ce que l'on pressent parfois sans pouvoir l'identifier réellement jusqu'à la révélation. C'est le secret de famille. Louis Aragon a découvert à l'âge de 20 ans que sa sœur aînée était en réalité sa mère. La même histoire est arrivée à Jack Nicholson. Quant au créateur Christian Louboutin, il a appris à 50 ans que son père était en réalité l'amant égyptien de sa maman. Alors s'il exposait aujourd'hui sa vie privée est devenue habituelle, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien les secrets continuent à empoisonner consciemment ou non les familles qu'il muselle. Alors quelles sont les conséquences d'un secret de famille sur les membres qui la composent? La révélation d'un secret de famille permet-elle réellement de se reconstruire? Peut-on se libérer du poids du passé qui parfois n'est même pas le nôtre? On en parle jusqu'à 15h30 avec vous, avec vos témoignages dans un instant sur l'antenne d'RTL, mais également avec nos invités. Bonjour Juliette Allais.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Juliette, vous êtes psychanalyste jungienne, psychothérapeute et auteur du livre Se libérer des secrets de famille aux éditions Erol. Est-ce à dire que les secrets nous emprisonnent toujours?
Pas toujours, mais ça peut être le cas parfois dans certaines familles. Quand ils sont lourds et justement, ça, c'est très important de pouvoir s'en défaire et d'amener un peu de parole là-dessus.
Voilà, et quand je disais en fait que l'on portait un poids d'un secret qui n'est pas forcément le nôtre, et on va revenir là-dessus, mais on les reçoit parfois en héritage, enfin
oui,
toujours en héritage d'ailleurs.
Hein. C'est souvent
d'où l'intérêt
une, deux générations ou trois générations avant nous que ça s'est constitué. Donc oui, ça remonte à loin.
Bonjour Yvonne Poncet-Bonisol.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL, Yvonne. Vous êtes vous-même psychologue clinicienne, auteur d'un ouvrage Secret de famille, ces silences qui nous gâchent la vie aux éditions Larousse. Je le disais, en fait, on les pressent, ces silences. Donc c'est très étonnant parce que ce sont des silences qui font grand bruit en réalité.
Ils font grand bruit, mais d'une manière assidueuse.
Oui.
Et c'est vrai qu'il faut parfois trois générations pour créer un secret de famille. Et cette forme d'assinuosité, c'est qu'on a des angoisses, on a l'impression d'étouffer. Et on a surtout quelque chose qu'on répète à notre insu. Et c'est souvent dans la répétition qu'on va trouver le sens du secret de famille et peut-être son histoire.
Mais c'est dingue ce que vous nous dites, en fait, Yvonne. C'est qu'on met trois générations à construire un secret de famille.
Oui.
Et on met parfois une révélation à le déconstruire, mais est-ce qu'on s'en débarrasse réellement au moment où on le formule?
Alors, la révélation, c'est la première étape de la reconstruction,
oui.
Mais ce n'est pas la totalité de la reconstruction. La parole libère, on n'est plus muselé dans sa parole, donc il y a une forme de libération, il y a certains symptômes qui s'envolent, mais en revanche, c'est la première étape de la reconstruction.
Et qui commence aussi, cette reconstruction, Juliette Allais, par une forme de destruction, parce qu'on détruit un système qui fonctionne sur le silence.
Oui, c'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'on vient bouleverser quelque chose qui s'est figé dans le silence depuis longtemps. Et parfois, les répercussions sont compliquées pour ceux qui parlent, parce qu'ils peuvent être exclus, ils peuvent être stigmatisés. Il y a parfois beaucoup de résistance à lever des secrets,
ouais.
Parce que ça s'est organisé comme ça depuis longtemps, pour protéger l'apparence de la famille ou plein d'autres choses. Donc c'est toujours un défi de s'attaquer au secret.
Est-ce que la reconstruction, Yvonne Poncelet-Bonisol, peut durer le temps d'un certain nombre de générations? Je sais pas,
oui.
Si je suis très claire, voilà. Avant, est-ce qu'on se débarrasse de ce foutu putain de secret de famille au bout de 2-3 générations où on n'en entend plus vraiment parler? On sait que ça existait, mais on n'en souffre plus.
Au bout de la troisième génération.
Parce encore
que, il faut savoir que la première génération vit le traumatisme, donc crée le secret. La deuxième, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose.
Ouais.
Et c'est là où l'imaginaire prend le dessus. C'est-à-dire, avec les bribes de ce qu'on connaît de ce traumatisme, eh bien, il y a une forme de roman familial qui se met autour de l'imagination va bon train. Et à la troisième génération, on ne sait plus ce qui s'est passé. On ignore un peu vraiment l'origine de ça, mais c'est là qu'on a les conséquences. Des émotions débordantes, des maladies psychosomatiques, des dépressions, des toxicomanies et souvent, bien sûr, des répétitions à notre insu. Vous voyez, c'est beaucoup de choses.
Alors, on va accueillir, si vous le voulez bien, mesdames, Jean-Michel sur cette antenne. Il a 73 ans, il habite à Cholet. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder du temps, merci de nous faire confiance. Jean-Michel, vous êtes ancien professeur de philosophie, désormais à la retraite. Vous avez découvert, vous, un secret de famille. Quand je disais que c'était un silence qui faisait grand bruit, est-ce que vous aviez, jusqu'à ce que vous le découvriez, le sentiment quand même que quelque chose ne collait pas?
Oui, peut-être, je dirais, dans mon existence, un sentiment diffus de ne pas être à ma place, de ne jamais être à ma place, ou pas vraiment, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez découvert, Jean-Michel ?
Eh bien, j'ai découvert, en fait, que j'avais un frère, que ma mère avait eu un enfant avant de se marier. Et ça a été révélé par mon père au moment où il est mort. Avant de mourir, il s'est confié à une de mes sœurs. Je suis parti d'une très nombreuse famille, hein. Je suis le 13e d'une famille. Et donc cette sœur a recueilli les confidences de mon père, qui lui a dit que ma mère avait eu un enfant, et que on avait, le père de ma mère avait fait jurer ma mère sur la Bible d'abandonner cet enfant. Voilà. Alors moi je ne l'ai pas su tout de suite, hein. Ça se passait en 1980. Et il a fallu attendre les années 90 pour que j'aie déjà une première... Une autre sœur m'en a parlé, m'a dit, bon, il y a eu quelque chose, ma mère a eu un enfant. Elle me l'a donné sous une forme, une rumeur un petit peu, je dirais, floue. Et j'ai cherché un petit peu plus, j'ai un peu creusé, je pensais que ça collait pas, et j'ai mis ça sous le tapis. Et puis, en 2000, j'ai traversé une sale période de dépression. Et là, cette sœur m'a redit la même chose. Et là, vraiment, ça m'a vraiment travaillé, marqué énormément.
Et vous avez décidé de mener une enquête qui a duré 5 ans. Pardonnez-moi, je me permets de terminer votre phrase parce qu'on va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant, Jean-Michel. Vous allez nous raconter cette enquête parce que vous avez senti à un moment donné qu'il fallait mettre les mains dedans. Moi, j'appelle ça soulever les sépultures du passé, quoi. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, on prend le truc et on s'en empare parce qu'on n'a pas d'autre choix. Visiblement, ça devient vital. On va se retrouver dans un instant, Jean-Michel. Vous allez nous expliquer justement cette enquête. Si vous souhaitez témoigner sur cette antenne, vous pouvez appeler le 3210 et on parlera ici en toute confiance. Ça me fera plaisir de vous entendre et de partager avec vous. À tout de suite sur RTL.
RTL, on est fait pour s'entendre.
Single de Sam qui sortira son premier album cette année.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Et ouais, c'est comme ci, comme ça. Et c'est souvent comme ça aussi dans les secrets de famille. Hein. On sent qu'il y a un truc qui va pas. Ça met 3 générations à se construire. Et puis ça en met presque autant aussi à se défaire. Et on en parle aujourd'hui avec nos invités que sont Juliette Tallet, qui est psychanalyste et psychothérapeute. C'est marrant. Le méchant lapsus, quoi. C'est un psychothérapeute. Pourtant, Juliette, depuis le temps, vous ne me faites pas peur. Et puis Yvonne Poncelet-Bonisol, qui est psychologue clinicienne. Vous êtes toutes deux spécialistes justement des secrets de famille. C'est intéressant parce que Jean-Michel, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez appris, vous avez entendu dire au moment de du décès de votre père en 1980 que votre mère aurait eu un enfant avant de se marier avec lui. Et vous avez appris au fur et à mesure, hein, finalement, que cette rumeur, elle avait atteint tout le monde, hein, avant que vous meniez vous-même l'enquête, puisque même votre sœur, quelques années plus tard, vous en a parlé. Donc en fait, tout le monde était au courant qu'il y avait quelque chose, ou en tout cas avait ouï dire ou ressenti qu'il y avait un malaise quelque part, mais personne ne s'en parlait.
Oui, on peut dire des choses comme ça, mais donc moi ce que j'ai fait surtout, c'est faire en sorte que ce qui n'était qu'une rumeur mal imprécise devienne quelque chose de beaucoup plus net.
Ouais.
Et donc j'ai enquêté pendant 5 ans.
Mais Arquette, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment est-ce que vous avez mené l'enquête ?
Ben, c'est à partir d'un extrait de naissance qui se rapportait à ce demi-frère. J'ai beaucoup circulé en France, j'ai écrit, j'ai enquêté auprès de l'armée parce que ce demi-frère, j'ai appris qu'il avait été parachutiste pendant la guerre d'Indochine. et qu'il a été fait prisonnier dans un camp vietnamien, et c'est là qu'il est décédé. Hein.
Il avait 22 ans.
Voilà.
Vos parents n'étaient plus en vie au moment où vous avez mené cette enquête ?
Absolument. Mon père est mort en 1980 et ma maman en 1985.
Vous vous êtes senti seul à ce moment-là, justement, quand vous alliez soulever les sépultures du passé ?
Oui, mais je pense que j'ai été animé d'une volonté de vraiment de clarifier les choses et je voulais savoir.
Qu'est-ce que vous avez ressenti au fur et à mesure de votre enquête ? Quels sont les sentiments qui vous ont traversé ?
Il y a eu beaucoup d'émotions de ma part. Quelque chose comme une sorte de progrès un petit peu vers plus de lumière. Au fur et à mesure où l'enquête avançait, même si elle avançait difficilement, parce qu'il y a eu des moments où j'avais plus de renseignements, j'étais un petit peu perdu, et puis les choses vraiment s'éclairaient au fur et à mesure, et c'était tout à fait extraordinaire de redonner vie finalement à un frère que je n'avais pas connu, hein, et que personne ne connaîtrait. Donc tout le travail après a consisté à faire profiter les autres membres de ma famille de l'enquête que j'avais faite. Et puis plus largement aussi, puisque en 2020, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mes bien chers frères », dans lequel je raconte cette enquête que j'ai faite.
Jean-Michel, votre entourage a voulu participer à cette enquête enfin, comment ont-ils réagi ? Certains se sont-ils tenus à distance ? D'autres ont-ils eu besoin de s'emparer de cette histoire également ?
Alors, bon, ce que je voudrais dire, c'est que ma femme m'a beaucoup aidé dans cette enquête, au moment où j'ai fait l'enquête. Mais mes frères et sœurs, bon, ont été chacun avec leur histoire, avec leur ressenti, ont tout à fait accepté finalement les résultats de l'enquête, en ont profité. Hein, mais chacun l'a fait avec son tempérament, avec son histoire et avec son ressenti. Puis ce que j'ai découvert également, c'est que la génération d'après, celle de mes enfants et puis de mes neveux et nièces, a été aussi très très intéressée par cette enquête. Voilà.
Ça vous a encouragé, ça, de voir, parce que vous l'avez fait, j'imagine, pour vous, mais quelque part aussi, on y reviendra avec nos invités, mais on le fait pour ceux qui nous suivent, pour les plus jeunes, justement, pour que cet héritage soit différent et peut-être moins lourd à porter. Ça vous a encouragé? Pour eux.
Oui, je crois que j'ai été petit à petit. Enfin, je suis passé de l'enquête à l'idée de faire partager cette enquête.
Une transmission.
Et la faire partager aux plus proches et à toutes les générations. Hein, d'où l'écriture de ce livre, Mes bien chers frères.
Est-ce que vous avez souffert, Jean-Michel, de cette révélation, ou est-ce que finalement c'était une histoire qui vous appartenait sans vous appartenir, et donc c'était juste une enquête ? Est-ce que vous avez nourri vis-à-vis de vos parents un sentiment qui pourrait être tout à fait humain, hein, mais est-ce que vous l'en avez voulu de ne pas vous avoir tous prévenus de ça ?
Non, absolument pas.
Ouais.
Non, non,
c'était
parce que
paix,
les circonstances ont été telles que mon grand-père a été très dur avec ma mère. Si j'avais quelqu'un près qui je pouvais en vouloir,
oui, bien
c'était
sûr.
Le grand-père. Mais ma mère, mon père, qui a voulu reconnaître l'enfant, ma mère n'a pas voulu. Eh bien, tout ça, moi, j'ai pas les jugés. Hein. C'est comme ça. Alors moi, j'ai vécu ça avec, je dirais, des émotions extrêmement intenses pendant toute la durée de l'enquête, mais avec ce bénéfice aussi, peut-être, de savoir que maintenant j'étais à ma place. Parce que je croyais peut-être être le 13e de la fratrie. En fait, j'ai été que le 14e enfant de ma mère. Voilà.
Oh là là, trouver sa place. Trouver sa place dans la vérité. En fait, on ne peut pas la trouver dans un monde brumeux. Vous avez trouvé votre place dans la vérité. On va revenir sur ce sujet avec Yvonne Poncelet-Bonisol qui est en ligne avec nous, avec Juliette Allais qui forcément ont des choses à nous dire. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Il a trouvé sa place dans la vérité. C'est Jean-Michel qui est en ligne avec nous, qui lui est parti enquêter sur un secret de famille. Voilà, on va revenir sur des histoires moins apaisées, hein, bien évidemment, car ça n'est pas toujours un chemin, je dirais, Jean-Michel, c'était pas toujours un chemin serein. Hein. On sent que vous avez avancé, que vous avez fait lumière, cette idée de transmettre aussi aux plus jeunes cette histoire de famille. Et surtout, pardon, mais vraiment, je trouve que dans la vie, on a déjà parfois du mal à trouver sa propre place. Et je suis convaincue que ça n'est qu'en vérité qu'on y parvient. C'était ça votre quête aussi première, de savoir que vous étiez le 14e et pas le 13e enfant de cette famille?
Ben, je pense que c'est un des bénéfices du travail que j'ai fait, du travail d'enquête et puis aussi du travail d'écriture de ce livre.
Ce livre, donc, il s'intitule « Mes bien chers frères, une guerre, deux destins, un secret », c'est aux éditions Feuillage, sorti en mai 2020. Alors, nos invités, évidemment, vous écoutent. Yvonne Poncet-Bonisol, ça n'est pas toujours aussi serein. Jean-Michel est quelqu'un d'installé. On reviendra sur des histoires encore différentes. Mais effectivement, on sent qu'il a fait quelque chose de vertueux, Jean-Michel, en s'emparant de cette histoire.
Oui, totalement. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le secret de famille, c'est vrai que bien souvent, on a l'impression de ne pas être à sa place ou de ne pas trouver sa place. Jean-Michel a été en quête de cette vérité qui était au fond une vérité non dite par honte et culpabilité de la part de sa maman. Et donc, c'est comme si, avec cette pulsion qu'on appelle finalement chez les enfants à 4-5 ans, cette pulsion épistémophilique, vous savez, quand il y a un secret, et ben cette pulsion, elle est réduite. L'enfant ne pose plus de questions, l'enfant se tait. Et je pense que Jean-Michel, avec son hypersensibilité, parce qu'on le sent hypersensible, a ressenti quelque chose, peut-être plus que ses frères et sœurs. Et donc, il est allé à la recherche de ça pour peut-être donner vie quelque part ou donner aussi une place à ce demi-frère qui est décédé à l'âge de 22 ans. Et c'est vrai que les sentiments qu'il a ressentis quand il a mené son enquête, bien sûr, c'était très libérateur. Mais ce qu'il dit est très, très important, c'est-à-dire qu'il a aussi brisé les chaînes du non-dit.
Tellement.
Et briser les chaînes du silence par rapport à ses enfants. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux, parce que en levant le secret, son secret dont il était prisonnier, il a libéré ses descendants.
Alors, c'est intéressant, Juliette Allais, parce que être à sa place, il faut quand même une sacrée, Jean-Michel, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, mais une certaine audace pour sortir de sa place d'enfant silencieux et s'emparer d'une histoire qu'on reçoit en héritage, mais qui n'est pas la sienne.
Bien sûr.
Est-ce qu'il faut savoir s'affranchir de tout ce qui muselle parfois une famille et sortir d'une position d'enfant pour à un moment donné dire « je vais aller fouiller moi dans l'histoire aussi de mes parents ».
Oui, le mot affranchir, il est tout à fait pertinent, parce que c'est ça, il faut arriver à se défaire de toute cette gangue qui nous enferme dans un silence, dans des injonctions à ne pas questionner, pour avoir l'audace d'aller de l'avant et de effectivement mettre en lumière, chercher, se positionner.
Parce que ça peut être intrusif aussi, hein.
Ça peut être intrusif. Alors il faut toujours le faire avec respect, avec le respect de l'autre évidemment, et sans violence. Mais c'est toujours intéressant de questionner le roman familial, parce qu'il est souvent approximatif. Souvent, il y a des choses qu'on cache, qui sont peut-être pas toujours aussi importantes que ça. Mais c'est toujours important d'aller fouiller le passé pour essayer de mieux comprendre ce qu'on nous en a raconté et comment on peut se positionner différemment pour être libre, en fait, et pour être vivant.
Jean-Michel, ce sera ma dernière question. En faisant lumière en vous, est-ce que quelque part aussi, vous n'avez pas fait lumière sur les personnalités de vos parents? Est-ce que vous n'en avez pas compris davantage sur des liens que vous pouviez avoir? C'est intéressant quand vous dites, finalement, si j'avais en vouloir à quelqu'un, c'était à mon grand-père qui avait imposé à ma mère d'abandonner un enfant, ce qui effectivement est parfaitement inhumain.
On revisite
ces relations avec ce prisme-là, et là, tout à coup, on est doué de pardon et on est aussi libre d'en vouloir.
Oui, parce qu'on revisite, comme vous disiez, le roman familial. Et en revisitant le roman familial, on s'aperçoit que ce grand-père, qui était un petit peu mis sur un piédestal, il est peut-être un personnage un petit peu douteux, parce que s'il a fait violence à ma mère, c'est peut-être aussi parce qu'il était le père de l'enfant.
Ça, c'est une théorie ou c'est une rumeur?
C'est une hypothèse. C'est une hypothèse parce que j'ai aucune certitude je dirais,
ouais, bien sûr.
À 100%, mais il y a pas mal d'indices concordants qui vont dans le sens d'un inceste.
Voilà. Donc parfois c'est aller là où ça pue aussi, hein. Pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Hein.
Oui, tout à fait.
On se bouche le nez parfois dans des histoires familiales, et bien souvent on se rend compte que c'est une question d'enfant. Hein. Ce sont bien souvent des enfants illégitimes,
des questions d'inceste souvent,
des questions de violence, d'abus.
Ouais, bien sûr, il y en a beaucoup.
Les choses bien moches, quoi.
Tout
voilà. Donc Yvonne Poncelet Bonisol, quand on mène ce genre d'enquête, il faut être sacrément armé, quoi.
Il faut être armé et je pense avoir finalement la rage au corps de découvrir.
Ouais.
Et je crois que c'est le propre de Jean-Philippe, il n'a pas abandonné. Et je crois qu'il était, je dirais presque, comme s'il était désigné pour aller à la recherche.
C'est marrant cette idée de la mission. Hein.
Oui.
Jean-Michel,
oui.
Quelque part, d'une façon inconsciente, vous vous êtes emparé d'une histoire, vous vous êtes donné une mission. Mais est-ce que ça ne devait pas justement passer par vous? C'est très puissant. Je vous remercie, Jean-Michel, vraiment, pour cette conversation.
Je vous remercie également.
Et je me permets de vous embrasser. Voilà. On peut le faire à la radio. Donc, ça nous manque tellement les étreintes et la tendresse. Comment on peut se la donner sans se connaître? C'est ça qui est chouette. Voilà.
Bon après-midi à vous.
Prenez soin de vous. Merci, Jean-Michel. Allez, on passe à l'information sur l'antenne d'RTL.
RTL.
Flavie Flamand.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
On parle des secrets de famille jusqu'à 15h30. On vient d'entendre l'histoire, je dirais, qui part de l'obscurité, hein, la plus profonde d'un secret de famille et qui se termine en lumière pour Jean-Michel qui a témoigné sur cette antenne pendant la première demi-heure. Dans ce studio, Juliette Allais et Yvonne Poncelet-Bonisol au téléphone pour justement parler de ces secrets. Il faut lever les secrets de famille et surtout les non-dits, nous écrit Frédéric, car ils pèsent lourd sur les générations suivantes. Qu'est-ce qui fait la base d'un secret de famille, Juliette Allais? Parce que Jean-Michel a 73 ans, il nous parle d'un autre temps, hein,
oui,
je dirais.
Et
certains nous disent, voilà, il y a toujours la question du qu'en dira-t-on, que vont penser les voisins, quand même.
Alors, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire comment faire pour protéger la famille, pour protéger les apparences de la famille,
voilà,
pour
protéger
que
les apparences.
Personne ne sache et qu'on reste blanc comme neige. Il y a aussi, il faut savoir que ce qui est le plus important dans la famille, un des ingrédients les plus importants, c'est que la parole circule correctement, surtout sur ce qu'on a ressenti, aussi sur les émotions. Et beaucoup de nos ancêtres ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils n'ont pas pu en parler. Et ça a fait secret, c'est-à-dire soit quelque chose qui a occasionné de la honte ou un traumatisme tellement épouvantable qu'on n'a pas pu en parler. Et c'est ça aussi qui fait que le secret se constitue, qu'on ne peut plus parler de rien. Et que ça se transmet comme ça d'une génération à l'autre.
Yvonne Poncelet-Bonisol, quels sont ces secrets dont on nous dit qu'ils étaient là pour protéger, en fait, parce qu'on se rend compte que ça protège jamais en réalité.
Ça protège jamais, mais vous savez, le secret, il est donc, comme disait Juliette, il est fabriqué par la honte et la culpabilité, et le non-dit est fabriqué par la souffrance, quelque chose qui ne peut être dit. Et parmi finalement les causes de ce secret, il y a bien sûr l'appartenance et la filiation, les secrets sur l'inceste, les origines, mais il y a aussi les divorces, les infidélités. Les faillites, le chômage, la dette, les viols, les meurtres, et puis aussi ce qui concerne la normalité ou l'anormalité, c'est-à-dire l'alcoolisme, la toxicomanie, les suicides. Enfin, tout finalement, il y a énormément de choses qui font qu'on en a honte et on maintient ça à distance pour que la façade sociale, l'harmonie familiale soit toujours au rendez-vous. Voilà.
Voilà, ça n'est pas qu'une question de sauver les apparences.
C'est l'harmonie qui doit régner.
Et faire montre d'une forme d'indulgence. Pour certains, Patrice nous écrit un secret dans la famille dans le but de bien faire. Le suicide de mon père. J'avais 6 ans, mon frère 3 ans, ma sœur presque 2. J'ai eu des doutes vers l'âge de 10 ans. La certitude à 23 ou 24 ans. Le suicide a eu lieu en 1967. Je n'en veux à personne pour ce secret et surtout pas à ma mère. Je me suis juré en revanche que je ne mentirais jamais à mes enfants. J'ai tenu ma parole. Il faut juste y mettre les formes selon l'âge. L'envie tout à fait légitime de protéger peut avoir de graves conséquences. Il faut faire montre d'indulgence aussi, Juliette Allais, vis-à-vis de ceux qui ont gardé les secrets.
Oui, je pense qu'il faut aussi essayer de comprendre ce qu'ils ont pu vivre, pourquoi ils étaient coincés comme ça dans le silence, qu'est-ce qui les a empêchés de parler. Il y a eu des époques où la honte était vraiment trop difficile à éprouver socialement. L'époque a changé. Hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus libre. On stigmatise moins les gens pour des tas de choses. Mais je pense qu'il faut...
Et puis on brutalise aussi les secrets aujourd'hui. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Bah, on voit bien, il y a plein de choses qui se disaient pas même il y a 10 ans.
Bien sûr.
Donc ça, c'est vraiment formidable. Mais je pense que ça nous oblige aussi à repenser les trajectoires de nos ascendants d'une manière plus juste, moins jugeante et plus... Comment dire? On a le droit d'être en colère, hein, ça n'empêche
c'est
pas.
Humain. Plus humaine,
voilà,
du coup.
Voilà, plus humaine.
C'est
oui, ça. Ils sont des êtres humains, ils ont vécu des choses, ils ne savaient pas toujours ce qu'il fallait faire. Et parfois, il y a vraiment des cas graves, enfin, des gens pour lesquels on ne peut avoir que du mépris. Quoi.
Mais, ouais, mais pas que, c'est ça que vous nous dites. Hein. Yvonne, vous nous parlez de la force de l'intuition dans votre livre.
Oui.
Le pouvoir de l'intuition, c'est quand même dingue ça.
Oui, hein? On le sait sans le savoir, mais on le sait. On a cette perception tout à fait subtile de savoir ce qui est indicible et ce qui n'est pas dit. Et ça, c'est extraordinaire. Et on le voit souvent, par exemple, des choix de métier. J'ai une amie qui a eu des enfants, donc par un donneur, toujours le même, et qui avait comme profession une profession assez rare. Et son fils dit un jour, tiens, je voudrais faire cette même profession. Il était commandant de bord dans des navires de commerce. Et finalement, son fils dit, je voudrais être commandant de bord. Et alors, il n'en savait rien de son père génétique. Vous voyez, il y a des choses qui se ressentent, qui se présentent. Et ça, il y a beaucoup de recherches maintenant sur l'épigénétique qui font que finalement, certains traumatismes, eh bien, on se les transmet. Peut-être d'inconscient à inconscient. On n'a pas encore assez de recul sur ce sujet.
Mais comment ça s'opère, justement, cette transmission?
Bah, je pense d'inconscient à inconscient, peut-être par des sentiments, des émotions, des non-dits, enfin, il y a quelque chose qui transpire. Un secret, ça finit toujours par transpirer.
Ça,
vous avez évoqué le mot
tout
à l'heure, ça pue.
Ouais.
Eh bien, ça transpire.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein, Juliette?
Absolument, d'inconscient à inconscient. Mais même dans l'ADN, maintenant, on découvre que l'ADN transmet aussi des choses qui n'ont pas été dites, hein, qu'on reçoit en héritage des traumatismes de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prouver maintenant par la science. Mais bien sûr, il y a tout le côté inconscient qui est très important.
Oui. On sent, enfin, moi, j'ai toujours parlé un peu de ce genre de secret comme une sorte de toile tendue. Noir au fond de nous, quoi. Il y a comme un fond de décor toujours un peu déprimé, quoi. Et là, on se dit que quelque chose n'allait pas. On va parler du fait de sortir du silence, hein, parce que Jean-Michel, lui, il est allé mener l'enquête sur une histoire déjà passée, sur des personnes qui étaient décédées. Mais parfois, quand on sort du silence, est-ce qu'il faut effectivement faire montre d'une forme de délicatesse par rapport à ça, si tant est que ce soit possible, pour ne pas se terminer en plein festin? On va en parler dans un instant avec vous, des questions qui nous sont arrivées d'Elena et de Marie-Jo, et je les poserai dans un instant en direct sur RTL.
RTL, on est fait pour s'entendre.
Qui sortira le 19 février.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Alors, des messages. Sortir du secret de famille, s'en libérer, est-ce que c'est forcément l'exposer au monde? On a Marie-Jo qui dit, je voudrais savoir si tout secret de famille doit être forcément dévoilé. Juliette Allais.
Alors, moi, je pense qu'il faut être très prudent avec la parole. En principe, c'est toujours important de dire au lieu de taire. Mais en revanche, il faut vraiment choisir son moment.
Ouais, je suis d'accord.
Choisir la manière dont on le fait et puis ne pas balancer des choses avec violence. Voilà ce que je pourrais dire. De manière générale, il faut être très très prudent.
Yvonne Poncet-Bonisol.
Oui, on peut effectivement, il est conseillé de dire le secret pour passer d'être détenteur et surtout ne plus être prisonnier. C'est-à-dire que bien souvent, on détient un secret, on n'est pas obligé de le dire quand on ne peut pas le dire. Néanmoins, quand on le dit, eh bien, on n'est plus prisonnier. Et ça, ça libère. Mais on ne le dit pas effectivement n'importe comment parce que bien souvent, les révélations peuvent jaillir d'une manière totalement inappropriée, sous le coup d'une colère, enfin, sur le coup d'une impulsion.
Et puis, quand on parle des secrets de famille, en général, ça éclabousse la famille. C'est forcément dit lors d'un déjeuner dominical ou une fête de Noël.
Exactement.
Quoi. Hein, donc il y a un moment pour...
Lors des repas de famille.
Mais forcément, à un moment donné, il faut que tout le monde soit là pour écouter. Néanmoins, détenir un secret de famille, c'est quand même un poids pour le coup, que je trouve terrible quand d'autres l'ignorent. Elena nous a envoyé un message. Mon mari a appris il y a 6 mois que son frère n'a pas le même père que lui. Leurs parents sont aujourd'hui décédés. Son frère ignore la vérité. Mon mari ne sait pas s'il doit lui en parler ou pas. Qu'en pensez-vous ? Quelle position épouvantable que de savoir quelque chose que le principal concerné ne sait pas. Juliette Allais.
C'est affreux, vraiment. C'est très, très lourd. Et puis, il y a une responsabilité terrible. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment mon frère va-t-il le prendre ? Enfin, et c'est vrai que...
Et puis, comment je dors avec ça, quoi ?
Oui, en plus, c'est très, très lourd. C'est très lourd. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le mieux, c'est quand même d'arriver à le dire, parce que le principal concerné, c'est très important
pour lui. Pourrait nous en vouloir de ne pas le savoir.
Ben oui. Et puis, c'est quand même une information capitale.
Ouais.
Donc,
qui peut lui permettre aussi, lui, de faire
de se repositionner et de se libérer.
Alors, on verra comment. Hein, mais Yvonne Poncet-Bonisol, qu'est-ce qu'on peut dire à Elena et surtout à son mari ?
Surtout quand ce secret porte sur les origines, je crois qu'on dit bien souvent que la vérité, c'est un terme qui peut paraître quand même un peu difficile à comprendre, mais à mi-dire. Je crois qu'il faut progressivement essayer de le dire, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut forcer personne à parler, mais aussi on ne peut forcer personne à écouter. Son frère est-il capable de l'entendre ? Parce qu'il va être comme ça dans une forme de conflit de loyauté par rapport à son père qui est décédé aujourd'hui. C'est un peu complexe, mais la vérité quand même est à mi-dire, c'est à mi-chemin. Voilà.
Et peut-être aussi a-t-il besoin de le savoir pour lui-même trouver sa place.
C'est ça.
Mais moi, je trouve que la position d'Elena et surtout de son mari est absolument épouvantable. Je pense aussi à certains secrets de famille où, moi, j'ai assisté un jour à un secret de famille, mais qui était dingue, où tout le monde savait.
Sauf
la personne concernée. Tout le monde devait la boucler. Alors, c'était des gens que je connaissais de très loin. Mais je me souviens, j'étais gamine, avoir été extrêmement choquée que dans une fratrie, tout le monde soit au courant que l'un de cette fratrie n'était pas l'enfant de son présumé père. Enfin, de son père. J'étais gamine, j'ai souvenance d'avoir été extrêmement choquée par ça. Parce que parfois aussi, certains parents sont inconséquents, Yvonne. C'est-à-dire que, en fait, soit on garde un secret et voilà quoi, on essaie de protéger soi-disant tout le monde, mais on n'a pas de complice dans le secret, c'est de la déresponsabilisation.
Alors le mot est excessivement juste, c'est de la déresponsabilisation, et surtout celui qui n'est pas au courant alors qu'il est le premier concerné, eh bien ses symptômes principaux sont effectivement une baisse d'estime de lui-même mais terrifiante, et parce qu'il le sent, il sent que quelque chose l'entourage le sait mais lui ne le sait pas. Mais il ne sait pas ce dont il s'agit, il ne connaît pas la teneur du secret.
Et là, il a des raisons d'en vouloir, je trouve.
Ah oui.
Hein, on est d'accord. Donc on peut
on
peut-être. Parce que ça, c'est de l'inconséquence de la part de parents que de faire porter le poids d'un secret à d'autres enfants, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dégueulasse. Oui. Il y a Solène qui nous écrit. Bonjour, voici ce qui me concerne. Alors, le message de Solène est un petit peu long, on en parlera après. Une famille où les secrets sont omniprésents, une famille aisée où il ne faut laisser aucune faille visible à l'extérieur. Et pourtant, si l'on creuse un peu à l'intérieur, c'est le chaos total. Les personnes de la famille ont un rang à tenir. Chacun doit être à sa place, ne pas faire de vagues, bien s'entendre et participer vivement aux réunions familiales. Il faut être constamment dans le paraître et tous ont peur du jugement des uns des autres. Ma grand-mère m'a appris il y a 2 ans que son père n'était en réalité pas le sien. Même son mari et ses enfants ne sont pas au courant, sûrement par honte. Donc du coup, c'est Solène qui récupère le secret. Moi-même, violée par un membre de la famille pendant plusieurs années qui m'a demandé de garder le silence, eh bien je l'ai fait. J'ai beaucoup trop peur de détruire les liens qui unissent cette famille, de créer des discordes par ma faute, de blesser sa femme et ses enfants, mais aussi la peur de ne pas être crue et de décevoir, lui ayant aussi en ayant brisé ce secret. Alors oui, ces poids sont lourds à porter en ayant l'impression de mentir, de cacher des choses, mais dans un sens, ils permettent de garder cette famille plus ou moins unie et heureuse sans être vue différemment ou jugée pour ce que l'on a fait. On va se retrouver dans un instant parce que je voudrais qu'on réponde à Solène. Parce que Solène, elle est détentrice d'un secret, de 2 secrets, un qui ne la concerne pas, un qui la concerne, et quelque part, elle maintient cette famille dont elle nous dit que c'est le chaos total. Donc elle est dans une situation absolument épouvantable. On va essayer de l'éclairer dans un instant.
Flavie Flamand sur RTL.
jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Si l'on décrypte aujourd'hui la façon dont le silence se tend autour d'un secret de famille, nous vous proposerons, ça y est, c'est déjà calé, une émission très prochainement sur comment en parler. Quand on a cette vérité, ce secret, comment fait-on à un moment donné pour en parler? Parce qu'on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui et c'est un sujet trop important pour l'aborder de façon très, très superficielle. Yvonne Poncet-Bonissol, je viens de vous lire le message de Solène. Solène, victime, hein, à double titre, détentrice d'un secret qui ne la concerne pas, qui concerne sa grand-mère, alors que personne ne le sait, et en même temps, détentrice d'un secret qui la concerne au plus haut point, c'est-à-dire que c'est une victime d'abus sexuels dans sa famille. Et pourtant, elle dit qu'il faut maintenir
cette alors, elle est apparente. Dans une famille effectivement clanique, et si elle ose parler, il va y avoir un éclatement familial, et la famille tout entière ça va se retourner contre elle. Il va y avoir... Ils seront dans le déni de toute façon, parce que quand on veut absolument que l'harmonie familiale soit sauve, eh bien, le principal mécanisme de défense qui va se mettre tout de suite en place, c'est le déni.
Bien sûr.
C'est elle qui va mentir.
Classique.
Donc, c'est classique, donc ça va se retourner contre elle. C'est très complexe et elle risque d'être l'outsider de la famille. Est-elle capable? Je ne sais pas. Et en ce qui concerne le secret concernant sa grand-mère, c'est plus facile d'aborder ce sujet que d'aborder le sujet de
bien
son
sûr.
Propre secret concernant les attouchements. Enfin,
bien
les...
sûr. Ce qui rejoint vraiment cette idée donc de cette prochaine émission, comment en parler, et puis bien savoir ce à quoi on s'expose quand on livre un secret.
Oui.
Néanmoins, Solène, ce que vous avez vécu n'est pas possible. Voilà.
Non.
Donc ça, il ne peut pas rester impuni. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que vous ayez en tête et à cœur, parce qu'on est dans un chemin de solitude lorsque l'on est victime de la sorte. Mais effectivement, vous avez raison, Yvonne, on peut se retrouver à rompre, à être finalement rejeté par une famille qui ne veut pas voir. Mais bon, quelle famille ? Juliette Allais.
Oui, bien sûr, quelle famille? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de protéger une famille où on ne peut pas parler, où on laisse la maltraitance s'installer, où on laisse l'abus impuni? Non, c'est vrai qu'à un moment, il faut avoir le courage de sortir de là, même si c'est difficile, et peut-être se faire soutenir, parce que c'est aussi
difficile.
Le courage,
mais la force, hein, surtout.
La force.
Parce que le courage,
oui.
Voilà. Mais en tout cas, cette force.
La force. C'est difficile aussi de le faire seul. Parfois, il faut chercher de l'aide pour être soutenu et savoir qu'on a raison. Et aller jusqu'au bout du processus. Mais c'est vrai que...
Pour ça, Solène, essayez peut-être de consulter, parlez-en, mais ne restez pas seule avec tout ça. Vous pouvez être aidée, hein, parce qu'effectivement, et on terminera là-dessus jusqu'à notre prochaine émission, Yvonne Poncet-Bonissol, avant de parler, il faut forcément savoir aussi quels sont les dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, on ne balance pas le truc comme ça, quoi.
Non, on ne balance pas sur la colère ou dans l'urgence.
On a tellement
peur. La peur, oui. La colère, la peur et l'urgence ne sont pas vraiment de bonnes conseillères pour révéler le secret de famille. Et surtout pas sur son lit de mort juste avant de mourir. Ça aussi, c'est quand même difficile.
Mais ça, alors c'est vraiment le côté. Bon, les gars, je m'en vais, mais je vous laisse le truc, quoi.
Voilà.
C'est alors vraiment.
Ah, oui.
Pour le coup, non, mais c'est le pire des héritages, le pire des au revoir.
Hein, c'est terrible.
Juliette.
C'est terrible. Il y a une violence.
Je soulage
là-dedans.
Ma conscience, là.
Oui,
je me
voilà.
barre. Maintenant, démerdez-vous.
Et puis, c'est ça. C'est vraiment démerdez-vous. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Et ça, c'est extrêmement courant, quand même. C'est ça qui est incroyable. C'est que...
Et ça, c'est pas de l'amour, hein.
Non, bien sûr que non, c'est pas de l'amour. C'est juste de la maltraitance qui continue. C'est du mépris, c'est de la violence, c'est tout sauf du vrai lien.
Oui. Yvonne, je voudrais qu'on termine sur une note positive.
Oui.
Hein, c'est que on peut. C'est Ernest qui nous a laissé un message concernant son père. Il a appris que son père avait été placé en famille pendant la Deuxième Guerre. Mon père fut pauvre, il n'a jamais fait un seul tour de manège. Enfin bon, tout ça se termine bien parce qu'il est en pleine forme. Il doit avoir un bon patrimoine génétique malgré tout, même s'il l'ignore. Il est en pleine forme donc. Il est très amoureux de ma mère. On ne sait rien de ses parents, juste des on-dit. Ce secret a peut-être influencé ma vie, nous écrit-il, Ernest. Mais on peut vivre avec ça. Hein.
C'est complètement... Et il y a de bons secrets.
Et pas qu'en dépit de ça. Ouais.
Et puis je crois qu'il ne faut pas aussi aussi confondre secret de famille et jardin secret. Finalement, ses parents ont eu un jardin secret magnifique qu'ils lui ont transmis en héritage.
Exactement. En tout cas, tout est possible, il faut le savoir, hein, dans la vie. Je vous remercie, mesdames. On va reprendre date donc pour pouvoir justement parler de cette libération de la parole au sein des familles, parce que c'est encore plus difficile qu'ailleurs. Hein. Il y a tellement de liens d'affect. Et en attendant, je conseille vos ouvrages. Juliette Allais, Se libérer des secrets de famille aux éditions Erol. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci. Yvonne, merci à vous. J'étais heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. C'était très intéressant. Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie aux éditions Larousse. Merci Yvonne Poncet-Bonisol.
Merci Flavie.
À bientôt.
Merci
Yvonne. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci à vous tous. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur l'antenne d'RTL. On va vous raconter l'histoire de deux enfants, César et Marceau, et comment le second, en naissant, a donné un nouveau souffle de vie au premier. On les appelle les bébés médicaments, mais c'est aussi surtout les bébés du double espoir. Un sujet profond, délicat pour notre grand entretien de demain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Donnez-vous du bon. Je vous embrasse.